Bonjour et bienvenue sur Radio Évasion. Nous vous partageons ici une lecture du livre « Comment la police interroge et comment s'en défendre », écrit et publié par le projet Évasion. Le livre est découpé en 6 chapitres, il y a donc 6 épisodes. Pour une meilleure compréhension, nous vous conseillons de les écouter dans l'ordre. Le livre n'est plus en stock chez nous, mais une version PDF est disponible librement sur notre site www.projet-evasion.org. Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à evasion@riseup.net, evasion E-V-A-S-I-O-N-S, @riseup.net, R-I-S-E-U-P.net. Un grand merci pour l'enregistrement et bonne écoute.
Chapitre 6. Stratégie d'interrogatoire.
À l'inverse des techniques de manipulation citées plus haut, les stratégies qui suivent prennent place dans une plus longue temporalité. Elles vont se développer sur la totalité de l'interrogatoire, voire même sur plusieurs interrogatoires d'affilée. Alors que les techniques de manipulation seront utilisées d'emblée en fonction de l'interaction police-suspecte, les stratégies d'interrogatoire sont choisies et préparées à l'avance selon le profil de la personne interrogée.
Sous-chapitre 1. Bon flic, méchant flic.
Mise en situation. Assise dans un petit bureau tout bétonné, tu as devant toi un inspecteur particulièrement agressif qui gesticule, hausse la voix, t'injurie et te menace. Tout d'un coup, la policière derrière lui l'interrompt, s'assoit en face de toi et te regarde calmement. Elle déclare d'une voix rassurante que tout est moins grave que ce qu'il n'y paraît, que c'est bientôt fini, que tu dois juste répondre à ces quelques petites questions et qu'ensuite, promis, tu pourras partir. Tu cèdes? Non? Alors le premier flic tape sur la table, te foudroie du regard, menace de te ramener en cellule et de t'y garder pour la semaine, et puis te pose des questions très précises auxquelles tu n'as aucune envie de répondre. Quand la flic, sympa, voit que le thème abordé était désagréable, elle coupe son collègue et te lance sur un autre sujet, qui paraît inoffensif et sur lequel tu t'engages volontiers, ne serait-ce que pour que le flic méchant reste à l'écart et éviter les sujets sensibles. Sauf que petit à petit, les questions te ramènent vers le sujet indésirable et que le flic méchant n'attend qu'une occasion pour te ressauter dessus. Tiendras-tu le coup? Bienvenue dans la stratégie du bon flic méchant flic, grand classique des séries policières. Dans cette stratégie d'interrogatoire, l'une des policiers-policières aura une attitude agressive et menaçante, attaquant frontalement sur des sujets désagréables et inconfortables. A l'inverse, l'autre prendra une attitude rassurante, calme, presque bienveillante. Entre eux, tu es comme une balle de ping-pong, envoyée de l'une à l'autre jusqu'à ce que tu craques. Le rôle du flic méchant est de te mettre la pression, de te pousser dans tes retranchements, de t'épuiser et de t'effrayer. Lorsque la deuxième inspectrice juge que tu es prête à craquer, ou lorsqu'un sujet particulièrement sensible est abordé, elle prend le relais, te rassure, t'offre un verre d'eau, te propose une pause, et d'une voix calme, te fait des promesses avant de reprendre les questions. On veut juste une réponse à cette question. Ensuite, vous pourrez rentrer chez vous. Pour se concerter et savoir quand passer la main à l'autre, les policiers-policières utilisent des signaux spécifiques comme un mot, un signe corporel ou même une intonation. Les deux rôles ne sont pas nécessairement présents en même temps. Plusieurs entretiens peuvent d'abord avoir lieu avec des flics au rôle de méchant uniquement. Puis arrivent deux inspectrices calmes et rassurantes. Et tu te doutes bien que si tu ne coopères pas, les flics agressifs-agressives reviendront. Passer rapidement d'une émotion à une autre entraîne un épuisement émotionnel. Cette tentative d'influencer tes émotions par un comportement spécifique s'appelle la contagion émotionnelle. En effet, l'état émotionnel d'une personne en face de nous influence notre propre émotion. Rencontrer une personne agressive pourra nous mettre dans un état de colère, de peur ou de stress, alors que rencontrer une personne calme et douce créera de la tranquillité, mais peut-être aussi de la méfiance. Avec ce mécanisme, on peut influencer un état émotionnel qui change, au rythme des interlocuteurs, interlocutrices et de leur comportement. Cela provoque un grand épuisement mental. Lié au stress de l'interrogatoire et à la peur d'être à nouveau confronté aux flics méchants, le risque de céder plus facilement aux flics gentils est grand. En fonction de l'ambiance que la police souhaite créer, la disposition des chaises sera différente. Face à face pour créer une ambiance de confrontation, et chaise sur le côté de la table s'il, elle, souhaite t'amener dans une position réconfortante et collaborative. Pour se protéger, rien de mieux que le silence ou de répéter en boucle « je n'ai rien à déclarer ». Plus vite les policiers-policières comprendront que tu ne vas pas t'engager émotionnellement dans leur stratégie, plus vite ils, elles, te laisseront tranquille.
Sous-chapitre 2. Sable mouvant.
Mise en situation. Toujours assise dans le même petit bureau au mur en béton, tu fais face à deux inspectrices qui te posent une question à laquelle tu ne souhaites pas répondre par la vérité. Tu mens sans savoir qu'elles connaissent déjà la vérité. Cette question n'est en fait qu'un test pour voir si tu vas t'engager dans un mensonge ou non. À présent, elles savent que oui. Alors elles te poussent à mentir encore et encore. Chaque mensonge attire une nouvelle question pour laquelle tu vas devoir rapidement inventer une réponse cohérente avec le reste de ton histoire. Pas facile pourtant de te souvenir de ce que tu leur as exactement dit par le passé. Tout d'un coup, l'air triomphant, une des policières explique qu'elles savent que tu mens, qu'elles ont un élément qui démontre que ce que tu racontes est faux, que tu t'es contredit. Tu ressens que tu n'es plus crédible, que le juge va savoir que tu as essayé de mentir, que ce comportement te rend suspecte, que tu avoues avec l'espoir de sauver ce qui peut encore l'être, ou que tu persistes à nier. La démonstration de tes mensonges est établie et elle sera retenue contre toi lors du procès. La tentation de craquer et de leur donner des aveux complets est alors très grande. La stratégie du sable mouvant vise à te laisser mentir, voire à t'encourager sur cette voie. Cela commence toujours par une question test dont la police connaît déjà la réponse afin d'évaluer si tu vas essayer de leur mentir dans la suite de la discussion. Si c'est le cas, tu vas être poussé à fournir de plus en plus de réponses mensongères. Et chaque fois que tu inventes un nouvel élément, tes interrogateurs, interrogatrices rebondissent et te posent de nouvelles questions. En clair, tu t'enfonces dans tes propres mensonges. Et plus tu leur livres d'éléments mensongers, plus le risque devient grand que tu te contredises ou que tes mensonges s'opposent à des éléments déjà récoltés lors de l'enquête, témoignages, traces, indices, etc. Mentir à l'improviste demande une grande capacité de concentration, beaucoup d'imagination et une très bonne mémoire. La police note l'entier de l'interrogatoire, alors que toi, tu n'as que rarement la possibilité de prendre des notes. Et quand deux ou trois semaines plus tard, les mêmes questions te sont posées à nouveau, tu dois répondre de manière similaire, jusque dans les moindres détails. Si tu te contredis, tu perds en cohérence et en crédibilité, jusqu'à ce que finalement, ton mensonge tombe en morceaux. Puisque tu ne connais pas les éléments de preuve que les policiers et policières ont récoltés contre toi, comment savoir si en mentant, tu es en train de te sauver ou de te nuire? L'objectif pour la police est de te pousser à mentir, puis de faire voler ton mensonge en éclats. Alors les policiers et policières vont te montrer qu'ils, elles, savent que tu mens, que tu n'es plus crédible. Le silence est une meilleure forme d'autodéfense que le mensonge. Tenter de dissimuler la vérité par le mensonge, c'est prendre le risque de révéler bien plus d'informations qu'en restant protégé par le silence.
Sous-chapitre 3. Stratégie de l'entonnoir et phénomène de l'engagement.
Mise en situation. Assis dans cette même pièce, au mur bétonné, les deux inspecteurs du jour ont une attitude sympathique, ouverte et légère. Ils commencent par te poser des questions ouvertes, très éloignées du sujet qui te retient enfermé dans leurs locaux. Ça ressemble à une discussion amicale, menée dans un café et non à un interrogatoire sous la contrainte. Leurs questions semblent n'engager à rien, ne sont pas menaçantes. Tu peux y répondre par la vérité sans crainte que cela soit retenu contre toi. Et tu as peur que si tu refuses de répondre, leur attitude amicale disparaisse et que les choses se compliquent. Sauf que petit à petit, le sujet est habilement amené vers des points sensibles. L'alarme sonne en toi et tu hésites à répondre. Tu deviens évasif. Rapidement, on te fait sentir que ton changement de comportement a été détecté et te rend suspect. Lorsque tu refuses de répondre, les inspecteurs se montrent étonnés de ton silence, te font remarquer que jusque-là tu as répondu et que si tu te tais maintenant, cela signifie forcément que tu as quelque chose à cacher, que tu es coupable. Le piège se referme. Poser des questions ouvertes et sans enjeu particulier en début d'interrogatoire est une pratique tout à fait banale. Peu importe quel profil de suspect tu as. Si tu y réponds, les inspecteurs-inspectrices tiennent déjà un élément de pression contre toi, si par la suite tu refuses de répondre. Pourquoi avoir répondu à nos questions jusqu'ici, mais refuser de le faire maintenant? Vous avez quelque chose à nous cacher sur le sujet? Avec cette stratégie, la police cherche à créer ce qui est appelé le phénomène de l'engagement, établir une attitude participative, un engagement émotionnel de ta part dans le processus d'interrogatoire. Plus tu réponds à des questions et donnes des informations, plus c'est ardu de t'arrêter, de déclarer, ne plus vouloir poursuivre la discussion. Changer d'attitude nécessite de remettre en question les choix que tu as faits précédemment et de rebrousser chemin, ce qui, inconsciemment, peut s'avérer difficile. C'est à nouveau le silence qui t'aidera le plus face à cette situation. Refuser d'entrée de jeu de répondre aux questions de la police, même si elles paraissent inoffensives, coupe l'herbe sous les pieds des inspecteurs-inspectrices souhaitant te piéger avec la stratégie de l'entonnoir. Sans réponse de ta part, pas de piège à tisser.
Sous-chapitre 4. Mécanisme d'acceptation inconscient.
Mise en situation. Vous vous appelez bien George Jackson?
Oui.
Vous avez déjà eu affaire au service de police par le passé?
Oui.
En consultant votre dossier, je constate que vous êtes marié et que vous avez deux enfants. Est-ce bien exact?
Tout à fait.
Posées comme une introduction protocolaire à l'interrogatoire, ces questions ont l'air totalement inoffensives, voire même inutiles. Pourtant, elles sont le cœur d'une stratégie de manipulation provenant du domaine du marketing, le mécanisme d'acceptation inconscient. Cette technique est utilisée en tout début d'interrogatoire pour amorcer le dialogue avec la personne interrogée. Les inspecteurs-inspectrices connaissent déjà les réponses et n'ont aucun intérêt à ce que tu les confirmes. L'utilité de cette stratégie repose dans le fait de t'amener à dire « oui » à une question à laquelle, en tout bon sens, c'est l'unique réponse possible. En répondant par la positive à des choses apparemment insignifiantes, tu te mets en position inconsciente de dire oui à des faits bien plus conséquents. Dans le domaine de la vente, cette technique est couramment utilisée, par exemple lors de ventes par téléphone ou dans la rue. La théorie du marketing veut qu'une vendeur-vendeuse arrive plus facilement à vendre son produit après avoir fait dire trois oui à sa victime commerciale. L'objectif est d'encourager la personne auditionnée à une attitude de collaboration positive pour la suite des événements. Pour éviter de se faire influencer par cette stratégie, le meilleur moyen est d'aborder d'entrée de jeu une attitude de non-collaboration avec les policiers et policières qui mènent l'interrogatoire. Le plus simple est de répondre dès la toute première question avec la phrase « Je fais usage de mon droit au silence » et de la répéter à chaque question.
Sous-chapitre 5. Humaniser la relation et bouée de sauvetage.
Mise en situation. Enfermé depuis des heures, voire des jours, dans une inconfortable et froide cellule de garde à vue, tu es stressé, mise sous pression, dans le doute quant à ton avenir et soucieuse de comment se portent tes proches. Les policiers et policières avec la solitude et le manque de contact social te pèsent. Soudain, une policière te sourit, te parle avec gentillesse et bienveillance, se montre compréhensive et rassurante quant à ta situation et te propose même des faveurs jusqu'alors refusées. Verre d'eau, nourriture, appel téléphonique, lecture. Pourtant, bien vite, cette même policière te pose des questions dérangeantes et lorsque tu refuses d'y répondre, elle se montre personnellement déçue et te culpabilise après tout ce que j'ai fait pour vous. Moi qui croyais en votre sincérité. Si tu maintiens ton attitude non coopérative, les faveurs et la gentillesse vont disparaître aussi vite qu'elles sont apparues. Placé en garde à vue ou en détention préventive, ton seul contact social est avec les inspecteurs-inspectrices qui t'interrogent et les policiers-policières qui te gardent en cellule. Cette situation est exploitée avec la stratégie cyniquement appelée le phénomène de bouée de sauvetage. Lorsqu'au milieu d'un environnement hostile, une personne nous tend soudainement la main et fait preuve de gentillesse, il est dur de ne pas se sentir redevable envers elle. Ce sentiment va être utilisé pour te faire du chantage affectif. La policier-policière en question fera part d'une profonde déception, surtout après s'être investi personnellement et émotionnellement, en espérant ainsi accentuer le sentiment de culpabilité chez la personne qui refuse de collaborer. Suivant ton profil émotionnel et social, cette stratégie peut être extrêmement déroutante et déstabilisante. La peur de décevoir la seule personne ayant fait preuve d'un peu d'humanité depuis plusieurs jours et le sentiment de lui être redevable de ses faveurs poussent à aller dans le sens voulu par cette stratégie, l'aveu et la collaboration à l'interrogatoire. Dans un tel moment, garde en tête l'asymétrie totale de cette situation. Après t'avoir arraché à la liberté et enfermé dans une pièce bétonnée, isolée de l'extérieur, la police tente un chantage émotionnel en te faisant miroiter un verre d'eau ou une cigarette. N'oublie pas que l'enquêteur-enquêtrice qui se montre gentille avec toi ne le fait pas par hasard ou par humanité, mais parce que c'est un élément d'une stratégie de manipulation dont tu es la cible. Syndrome de Stockholm. Le terme « syndrome de Stockholm » s'est développé en psychologie en référence à un braquage de banque avec prise d'otage à Stockholm en 1973. Après avoir pourtant passé 6 jours sous la détention des braqueurs, les otages ont montré une forte solidarité avec ces derniers. Ils, elles, protégèrent les bandits de leur corps lors de l'assaut de la police, refusèrent de témoigner lors du procès, prirent leur défense, se cotisèrent pour payer leurs frais d'avocat et allèrent leur rendre visite en prison. Le fait que les otages n'aient pas seulement agi par attachement et par identification avec leurs ravisseurs, mais également par hostilité à l'égard des autorités policières dues à leurs agissements lors des faits, n'est repris et analysé que dans un faible nombre d'études psychologiques, mais vaut la peine de s'y intéresser. En psychologie, le syndrome de Stockholm désigne depuis lors un phénomène d'attachement paradoxal des victimes de séquestration envers leurs agresseurs-agresseuses. C'est le fait de perdre de vue l'objectivité de la situation et de s'identifier à la personne qui pourtant t'oppresse. Le sentiment de reconnaissance pour ne pas être plus maltraité surpasse le ressenti négatif de l'oppression vécue. Le syndrome de Stockholm peut être vu comme une manifestation inconsciente de survie. Le sujet concerné, en s'attirant la sympathie de l'agresseur-agresseuse, peut se croire partiellement hors de danger, voire susceptible d'influencer les émotions de l'agresseur-agresseuse. Les stratégies et techniques de manipulation qui se construisent sur l'humanisation de la relation police-prévenue et la contagion émotionnelle cherchent à créer ce phénomène. Lorsque tu ressens de la gratitude envers une policier-policière pour t'avoir amené de l'eau alors même qu'elle t'enferme et te prive d'eau, il s'agit d'une forme du syndrome de Stockholm.
Sous-chapitre 6. Contagion émotionnelle.
Mise en situation. Assis sur ta chaise inconfortable, tu écoutes le policier te parler des dommages collatéraux que tes actes ont provoqués, du désarroi et de la détresse des personnes qui ont retrouvé leur vitrine brisée. Tu sens monter en toi la culpabilité, la honte et le doute. Et s'il disait vrai, ton intention n'était pas de faire souffrir des gens lorsque tu as lancé cette pierre dans une vitrine de boucherie, mais de protester contre la souffrance animale. L'inspecteur change de ton et devient énervé. À présent, il t'accuse d'être un lâche, de ne pas assumer tes convictions, d'être un suiveur de groupe. C'est la colère et l'indignation qui montent maintenant en toi. Tu ressens l'envie de te justifier, de t'expliquer et de te défendre. Mais tu te retiens de justesse. Alors l'autre policier présent prend une voix dure et te menace. Tu vas prendre cher, ta famille ne te comprendra pas, tu risques même de perdre ton emploi. Et si tu continues à t'enfermer dans le silence, tu resteras enfermé ici une semaine de plus.
Ces paroles attisent des craintes déjà bien présentes en toi. Tu prends peur, l'émotion jaillit et les larmes coulent en même temps que tu te mets à répondre à leurs questions. Passer d'une émotion à une autre entraîne un épuisement émotionnel. Cette stratégie policière consiste à influencer ton émotion par le comportement des enquêteurs-enquêtrices. En psychologie, cela s'appelle la contagion émotionnelle. L'état émotionnel des personnes en face de nous influence notre propre état émotionnel. Rencontrer une personne agressive, par exemple, pourrait te mettre dans un état de colère, de peur ou de stress, alors que rencontrer une personne calme et douce créera de la tranquillité, mais peut-être aussi de la méfiance. Avec ce mécanisme, il devient possible d'influencer ton état émotionnel qui changera au rythme de tes interlocuteurs, interlocutrices et de leur comportement. Les policiers, policières vont chercher quel état émotionnel représente pour toi la plus grande vulnérabilité et va te faire perdre tes moyens. Est-ce la honte et la culpabilité éveillant l'envie de te racheter et de te confesser à travers l'aveu, la colère dans laquelle tu n'arriveras plus à garder ton sang-froid, ou encore la peur qui te poussera à faire des déclarations? L'étude de ton comportement durant la garde à vue, détention provisoire, les interactions que tu auras tout du long de ton arrestation et de ta détention pourront donner de précieux éléments à la police pour répondre à cette question. La contagion émotionnelle se transmet par la communication verbale et non verbale. Une attitude ouverte, souriante et presque joyeuse d'un ou une inspecteur-inspectrice, sourire, bras ouverts, t'influencera différemment qu'un comportement distant et hostile, bras croisés, regard en coin. Parole de flic. Alors il y a le vrai énervement, mais c'est assez rare et il y a le faux énervement. Donc c'est du cinéma, il y a des moments où ça va être du show, c'est du bluff. C'est-à-dire que tu vas t'énerver, tu te mets à hausser le ton, tu gueules, tu leur rentres dedans si tu veux.
Sous-chapitre 7. Flic naïf, naïve.
Mise en situation. Lorsque l'inspecteur commence l'interrogatoire, tu te dis très vite qu'il ne doit pas encore avoir beaucoup d'expérience en la matière. Il pose des questions qui te paraissent peu pertinentes, voire même carrément hors sujet. Visiblement, il fait fausse route sur toute la ligne et n'est pas juste novice, mais carrément incompétent. Cela te rassure et te donne confiance dans le fait que tu vas t'en sortir. Tu tentes un mensonge, puis un autre, et pris dans ton optimisme, tu lâches une information de trop. L'attitude de l'inspecteur change. Il te montre une contradiction dans tes mensonges, te fait comprendre qu'il sait que tu mens et qu'il peut te le démontrer. Les questions deviennent très précises en touchant des sujets sensibles. À son expression changée, tu comprends qu'il s'est joué de toi et t'a laissé gagner en confiance pour que tu fasses des erreurs. La stratégie du flic naïf-naïve est utilisée en début d'interrogatoire, lors de ton premier contact avec les policiers-policières. Dans cette stratégie, c'est souvent un ou une policier-policière jeune qui va se présenter à toi comme le ou la flic peu dégourdi, à côté de la plaque, voire carrément idiote. L'objectif est de te mettre en confiance et de te faire baisser ta garde afin que tu fasses des erreurs. Tu pourrais par exemple lâcher une information importante en sous-estimant le fait que les inspecteurs-inspectrices puissent l'utiliser contre toi, ou mentir avec confiance en pensant que ton mensonge ne sera pas percé à jour par ces enquêteurs-enquêtrices novices. Cette stratégie crée non seulement chez toi un manque de méfiance et de défense, mais elle peut te déstabiliser lorsque tu remarques que les policiers-policières se sont joués de toi, que la situation telle que tu l'avais évaluée ne correspond pas à la réalité et que tu t'es mise en danger. Cela peut soudainement inverser ta vision. Après avoir pensé être dans une position supérieure à l'inspecteur-inspectrice à cause de sa naïveté visible, tu te sens mise en infériorité puisque tu as pu être berné. Parole de flic. C'est très bien d'être policier avec ce caractère d'autorité à partir du moment où on peut jouer dessus, y compris avec son paradoxe. C'est-à-dire que vous êtes autoritaire et débile, et puis tout à coup, quand vous discutez avec les gens, vous avez l'air ouvert et sympa. Bah, c'est déstabilisant et ça ouvre des possibilités.
Entretien synchronisé. Mise en situation.
Toi et tes amis avez toutes été arrêtées simultanément. 3 jours après être allés déboulonner ensemble la statue d'un ancien esclavagiste, pourtant célébrée par la société. Visiblement, la police vous soupçonne. Heureusement, vous vous étiez mis d'accord sur une version commune à raconter en cas d'arrestation. Pendant l'interrogatoire, tu réponds aux questions en narrant l'histoire que vous aviez préparée. Peu de temps après, les policiers reviennent et te font part de quelques légères divergences dans ton histoire par rapport à celle qu'ont raconté tes amis. Tu réponds en essayant de recoller les morceaux, tant bien que mal. Mais une tension s'installe en toi. Comment être sûr que tu restes cohérente avec ce que disent les autres? Encore plus tard, lors du 3e interrogatoire, tu comprends à travers les questions des policiers que ce ne sont plus de simples divergences qui sont présentes entre vos versions, mais de réelles contradictions, laissant supposer un mensonge. Tu réalises trop tard que tes amis ont subi exactement le même interrogatoire que toi, dans le même ordre, et que les inspecteurs ont ainsi réussi à transformer ce qui était d'abord une légère différence dans la même histoire en 2 versions opposées. Les entretiens synchronisés sont une stratégie spécifiquement utilisée lorsque la police auditionne plus d'une personne à propos d'un même événement. Elle permet de vérifier si les différentes suspectes ont préalablement convenu d'une fausse histoire commune afin de dissimuler la vérité. Dans un tel cas, toi et tes amis seront interrogés séparément, mais suivant un schéma d'interrogatoire exactement similaire. Les questions seront posées de la même manière et dans le même ordre afin d'amener la même interprétation. Il sera facile de remarquer où se trouvent les divergences, quels sont les petits détails auxquels vous n'avez pas pensé, les questions qui n'avaient pas été anticipées et qui vous ont pris de court. Après comparaison entre les différentes versions, un 2e interrogatoire est à nouveau mené simultanément et de manière identique chez toutes les personnes interrogées, sans que vous n'ayez pu vous concerter entre vous. De cette manière, il devient aisé pour la police de creuser les écarts entre vos déclarations jusqu'à faire perdre la crédibilité à votre histoire et à démontrer, par comparaison, qu'il s'agit d'une version préparée à l'avance. Une trop grande similarité dans une même histoire racontée par plusieurs personnes peut être tout aussi suspecte que de trop grandes lacunes. 2 personnes qui ont vécu un instant commun le raconteront chacune selon leur propre mémoire, construite à travers les propres ressentis et sensibilités. Le rendu sera sensiblement moins identique que si les 2 personnes racontent la même histoire apprise par cœur.
Sous-chapitre 9. Mettre le doigt sur les changements de comportement.
Mise en situation. L'interrogatoire a commencé par des questions ouvertes sur du sujet sans trop d'enjeux. Pour te donner une image innocente, tu as décidé d'y répondre. Tout d'un coup, une enquêtrice te pose une question sur un sujet qui te met clairement mal à l'aise. Tout en dissimulant ta gêne, tu tentes de répondre en esquivant le sujet. Les questions deviennent moins menaçantes jusqu'au moment où l'inspectrice te pose une série de questions précises, toujours à propos de la thématique qui t'a déjà mis dans l'embarras et sur laquelle tu ne souhaites pas t'aventurer. Tu essaies d'esquiver à nouveau, mais cette fois, les policières te font clairement comprendre qu'elles ont remarqué ton changement de comportement chaque fois qu'elles abordent ce sujet et qu'elles savent que tu souhaites dissimuler quelque chose. Tu te sens rougir, tu hésites, tu bafouilles et finalement, tu leur dis que tu ne souhaites pas répondre à cette question. « Fort bien, c'est votre droit, en effet, » te répondent-elles. « Mais vous devez savoir que devant un tribunal, cela sera perçu comme un indice de culpabilité. Sinon, pourquoi avoir été d'accord de répondre aux premières questions et subitement, plus à celles-ci? Vous avez quelque chose à cacher et nous le savons. Avouer vous soulagera et fera gagner du temps à tout le monde. » Lors d'un interrogatoire, les inspecteurs-inspectrices étudient autant ton langage corporel que tes réponses verbales. Cela leur fournit beaucoup d'indications pour connaître les thèmes qui te sont sensibles, où tu deviens nerveux, nerveuse ou stressé. En te montrant tes changements de comportement, par exemple, lorsqu'elles évoquent des personnes soupçonnées d'être tes complices, les policiers-policières tentent de te donner l'impression que tu te fais trahir par ton corps et que tu n'es plus crédible. Pourquoi deviens-tu agité lorsque tu réponds à cette question-ci, alors que juste avant tu paraissais calme et détendu? L'objectif visé est de te déstabiliser et te faire douter de toi-même, de tes capacités à dissimuler des choses à la police et de te donner une impression que tout est déjà joué. Le fait de ne répondre à aucune de leurs questions te protège fortement contre cette stratégie. Sans comparaison possible entre tes différentes réponses et réactions aux questions, il n'est pas possible d'utiliser contre toi ton potentiel changement de comportement.
Sous-chapitre 10. Minimiser, maximiser.
Mise en situation. Depuis le début de ta garde à vue, tu te prends la tête à réfléchir aux conséquences que pourrait avoir une condamnation. Est-ce que tu risques une grosse amende, une peine de prison ? Si oui, de quelle durée et dans quelles conditions ? Est-ce que tes proches vont se montrer compréhensifs et ton employeur ? De manière inconsciente, ton cerveau se concentre sur la pire des possibilités et tu imagines comment tu vivras une condamnation de plusieurs mois de prison accompagnée du rejet de ton environnement social. Pourtant, lors de l'interrogatoire, tu entends avec soulagement les inspecteurs évoquer que tu ne risques qu'une amende, qu'à ton âge, eux-mêmes ont fait bien pire, que ce dont tu es accusé est illégal, mais somme toute assez banal, et que les dealers, voilà les vrais criminels. Toi, ce que tu as fait en comparaison, c'est pas bien grave. Entendre cela te détend. La pression en toi redescend. Après avoir imaginé le pire, la perspective d'une simple amende à payer te paraît moins dangereuse, presque salvatrice. Tu ressens moins d'enjeu à te protéger, tu baisses la garde et tu réponds à leurs questions, jusqu'à être ramené en cellule. Un doute apparaît alors dans ton esprit. Et s'ils avaient menti ?
La police liste trois peurs pouvant empêcher les personnes interrogées de passer aux aveux. Premièrement, la peur de la répression juridique de la peine encourue. Deuxièmement, la peur de la répression sociale, du rejet de la famille, des proches, de la perte de travail. Troisièmement, la peur de son propre sentiment de culpabilité, d'avoir enfreint sa propre morale et d'avoir honte de soi. Cela peut empêcher de s'avouer sa faute et par conséquent de l'avouer à autrui.
En minimisant les faits, la réaction de l'entourage et la gravité des faits, les inspecteurs-inspectrices cherchent à atténuer les peurs que tu pourrais avoir, à te rassurer afin que tu aies moins de réticence à avouer tes actes. À toi-même d'abord, mais bien sûr aussi aux policiers-policières qui t'interrogent. Ils, elles, peuvent donc te raconter que tu ne risques pas grand-chose juridiquement, faire preuve de compréhension pour ce dont tu es accusé d'avoir fait et surtout sur le pourquoi tu l'as fait. Ils, elles, vont également t'assurer que tes proches comprendront ce que tu as fait et te pardonneront. Ils, elles, compareront ce que tu as fait avec des crimes vraiment graves en te disant que tu aurais pu faire bien pire. Il est normal et légitime de ressentir des peurs et de leur offrir de la place. Néanmoins, c'est particulièrement dangereux et inutile de se confronter à ces démons dans le cadre de l'interrogatoire en présence de policiers et policières qui cherchent à exploiter tes faiblesses pour te manipuler. Pour te confronter aux conséquences juridiques, ton avocate ou un groupe de soutien juridique auront de bien meilleurs conseils. N'oublie pas qu'entre ton passage chez la police et le procès où tu seras jugé, tu auras le temps nécessaire pour te renseigner sur ce que tu risques en cas de condamnation. Tout cela en connaissant du contenu du dossier d'enquête. En ce qui concerne la réaction de tes proches, qui est mieux placé que toi pour anticiper leur réaction face à ta condamnation ? Sûrement pas des policiers et policières dotés des œillères d'une institution garante de l'ordre moral. Discuter et débattre en amont avec ses proches du sens que l'on voit dans des concepts tels que coupable et innocent, légal et illégal, ainsi que du fonctionnement des institutions de justice et du sens que l'on voit dans nos choix de vie, même lorsqu'ils sont illégaux, aide à créer un terrain de compréhension mutuelle. Peut-être que tu ressens un sentiment de culpabilité, que tu regrettes tes actes que tu as commis et pour lesquels la police enquête à présent sur toi. Nous faisons toutes et tous des erreurs ou des actes que nous regrettons par la suite. L'enjeu se trouve dans la transformation qui pourrait être permise à travers la responsabilisation de ces actes d'un sentiment d'empathie et d'honnêteté. La justice institutionnelle n'a pas pour but de réparer les dommages causés ou de transformer la souffrance vécue en un changement émancipateur. Elle vise en première ligne à punir les personnes coupables d'avoir enfreint les lois. Une institution autoritaire et bureaucratique n'est pas une base propice à une démarche réparatrice. La réparation d'un préjudice ou d'une souffrance a bien plus de chances d'aboutir lorsque la démarche se fait avec les personnes concernées et touchées par les actes produits, en interaction individuelle ou au sein d'une même communauté. Cette stratégie s'emploie aussi dans le sens inverse, en exagérant la gravité des faits afin de jouer sur la tendance naturelle à accepter une infraction d'une gravité moindre que celle présentée initialement. Parole de flic. Tu lui expliques qu'il s'est retrouvé dans une affaire qu'il dépasse. À ce moment, le suspect croit qu'il est dans une affaire de droit commun. Mais les téléphones qu'il a volés, ils ont servi pour du terrorisme, et ça, il savait pas. Je lui dis alors, soit tu m'expliques pourquoi tu as volé, comment, avec qui, et voilà, soit tu vas être impliqué dans une affaire de terrorisme, c'est toi qui vois. Tu te sers de ça pour appuyer là où ça fait mal, et pour avoir des infos, et là, tu lui mets une pression psychologique.
Sous-chapitre 11, rejeter la faute sur autrui.
Mise en situation. Lorsque, inquiète, tu arrives dans la salle d'interrogatoire, les enquêtrices font preuve d'une forte compréhension envers ta situation. Elles évoquent tes complices qui t'auraient mis la pression pour que tu acceptes de les aider à cultiver du chanvre et qui porteraient une plus grande part de responsabilité que toi. Elles parlent des lois qui sont mal faites puisque dans d'autres pays, la culture du chanvre est déjà dépénalisée. Elles parlent de la société qui a besoin de temps pour comprendre que le cannabis n'est finalement pas plus dangereux que l'alcool. Elles aussi fumaient de l'herbe en étant ados. Elles te disent que toi, au moins, tu ne deals pas d'héroïne, que ça, c'est de la vraie saleté. Ces déclarations confortent des pensées déjà présentes en toi. L'environnement de cette salle d'interrogatoire dans laquelle tu es enfermée devient moins hostile. Tu te sens comprise et entendue dans le fait que tu ne portes pas réellement une grande responsabilité morale dans ce dont tu es accusée. Un sentiment inconscient de reconnaissance naît en toi, envers ces policières qui ont contribué à t'enlever la culpabilité que tu pouvais porter. Te sentant en terrain favorable, tu t'ouvres et reconnais ce que l'on te reproche. Rejeter la faute sur autrui, les lois, la société, les complices, voire pour les policiers policières les plus cyniques, sur les victimes, vise à amener la personne entendue dans une posture de déresponsabilisation face à ses actes. Et si tu n'es pas vraiment responsable, nier ce qui t'est reproché devient tout à coup moins important. Les enquêteurs-enquêtrices te font croire que, puisque tu ne portes pas toute la responsabilité morale de tes actes, tu vas bénéficier de circonstances atténuantes lors de ta condamnation. C'est l'occasion pour moi de rappeler que le travail de la police consiste uniquement à composer un dossier avec des éléments pouvant servir à te condamner lors d'un procès. Tout ce qui relève de la condamnation, type de peine, longueur, clémence, circonstances atténuantes, dépassent totalement leur fonction. Pour ces décisions, c'est l'appréciation d'une ou d'un juge qui rentre en compte. Dans une enquête visant plusieurs personnes, une stratégie récurrente est de te faire croire que c'est de la faute de tes complices si la police s'est retrouvée à enquêter sur toi. L'une d'entre elles n'aura pas fait assez attention et aura laissé fuiter une information ou t'aura balancé lors de son interrogatoire. L'accent est mis sur le fait que ce n'est pas à toi de payer pour une erreur commise par quelqu'un d'autre. Cela te pousse à te désolidariser de tes complices en donnant des informations à la police. Une stratégie parallèle consiste à te présenter une version des faits où tu t'es fait entraîner par tes complices plus ou moins contre ton gré, et où tu porterais donc moins de responsabilités que les autres, ce qui induit à penser que tu auras une peine moins lourde. La contrepartie de ce « deal » est que tu vas devoir répondre aux questions, car si tu as participé à l'action illégale uniquement sous pression, pourquoi vouloir ensuite protéger celles qui t'ont forcé la main ?
Sous-chapitre 12. Encourager à l'aveu.
Mise en situation. Depuis ton arrestation, tu es pris d'un sentiment de doute et de culpabilité par rapport aux actes que tu as commis. Tu as peut-être agi un peu trop vite, de manière un peu trop irréfléchie. À présent, tu regrettes. Dans l'idéal, tu te rendrais auprès des personnes touchées par tes actes pour leur présenter tes excuses et réfléchir ensemble à comment réparer ce qui a été fait. Mais la justice s'est déjà immiscée dans l'histoire, et plutôt que la réparation, c'est de punition qu'il va être question. Et que va penser ton entourage de tout cela,
Quelle image de toi auront les gens ? Tu ressens le besoin de te justifier, d'expliquer ton acte et tes intentions. Malheureusement, tu es isolé. En face de toi ne se trouvent que les habituels inspecteurs. Ces derniers s'efforcent d'attiser ton sentiment de culpabilité tout en se montrant compréhensifs de ta situation. Ils se disent conscients que tu vis une mauvaise passe et t'assurent que tout cela ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. En avouant, tu feras preuve de repentance. Ton entourage comprendra que tu regrettes ce qui s'est passé et tu te sentiras soulagé d'avoir entamé le chemin de la rédemption. Pour cela, rien de mieux que de passer aux aveux. La plus banale des stratégies d'interrogatoire. Après avoir attisé en toi la culpabilité et le remords, les inspecteurs et inspectrices te présentent l'aveu comme un premier pas vers la rédemption. Ils évoquent le soulagement que va te produire le passage aux aveux, en prenant appui sur le modèle religieux de la confession. Tes croyances religieuses, principes moraux et la notion du bien et du mal sont alors exploités afin d'y chercher les contradictions avec les actes que tu as pu commettre et te pousser dans une position de fautive, cherchant le pardon. C'est ici que l'on va entendre des expressions du type « ça va te libérer » ou « vas-y, sors-le, ça va te faire du bien ». Un autre argument mis en avant est que plus vite tu reconnais et plus vite tout cela sera derrière toi. En réalité, c'est plutôt l'inverse qui est vrai. Combien de conflits interhumains auraient été résolus depuis longtemps si la justice n'était pas entrée en jeu avec toute sa lourdeur et sa lenteur ?
Sous-chapitre 13. Flatterie, moquerie.
Normal qu'un nul comme toi se fasse pincer aussi vite. Décidément, vous deviez être totalement inconsciente et naïve pour croire qu'un plan pareil avait des chances. En 15 ans de carrière, je n'ai encore jamais vu ça. Une idée pareille est vraiment audacieuse. Vous avez préparé votre plan de manière très audacieuse et clairvoyante. C'est rare que l'on voit ça. La flatterie, tout comme la moquerie, sont de puissants leviers émotionnels, agissant sur la fierté, l'ego ou encore la vanité. Les inspecteurs-inspectrices peuvent ainsi se moquer de l'incapacité de la personne interrogée et des erreurs commises afin de la pousser à se justifier et à rectifier l'image négative qu'elles ont d'elle. A l'inverse, la flatterie sera utilisée avec l'objectif que la personne interrogée reconnaisse ou s'attribue des faits présentés comme particulièrement osés ou audacieux. Ce travail de valorisation-dévalorisation peut se faire sur une longue durée au travers d'insinuations subtiles réparties entre les interactions avec la police dans et hors interrogatoire. Cette stratégie est très utilisée chez les personnes jugées narcissiques, ayant trop ou trop peu de confiance en elles ou habitées par un sentiment de supériorité. Pour se protéger, une piste est de ne pas se laisser aller à une bataille émotionnelle avec les policiers et policières qui te provoquent. Peu importe ce qu'ils, elles, pensent de toi ou leur avis sur la situation, tu n'as rien à leur prouver. Ce sont des inconnus, ils, elles, apparaissant dans ta vie uniquement pour un très court instant avec des intentions hostiles à ton égard. Être intègre avec ses idées et au clair avec ses choix de vie, légaux ou non, évite de se laisser provoquer sur le terrain de l'ego.
Sous-chapitre 14. Spéculer sur les moyens d'enquête.
Mise en situation. Tu arrives à l'interrogatoire assez sûr de toi. Tu en as vu d'autres. Les policiers qui t'ont arrêté n'ont sûrement rien dans leur possession qui pourrait prouver ta culpabilité. Ils te soupçonnent, c'est sûr. Mais heureusement, un soupçon n'est pas suffisant pour condamner une personne. Il te suffit de ne rien dire, et tu devrais t'en tirer. Les policiers remarquent très vite ta grande confiance en toi et le fait que tu ne sembles pas très inquiété par les risques que tu encours. Pourtant, eux aussi prennent un air confiant. Ils te disent que ça n'a pas d'importance, que tu parles ou non. N'es-tu pas au courant qu'ils ont en leur possession des enregistrements vidéo provenant de caméras de surveillance où l'on te voit ? Il te semblait pourtant ne pas avoir aperçu de caméra, mais peut-être que tu t'es trompé, que tu n'as pas regardé assez précisément. Sous peu, te disent les policiers, ils auront des résultats des relevés d'empreintes digitales, des traces de chaussures et de l'ADN prélevés sur place. Tu sens la chaleur te monter au visage et ta confiance faire place au doute. Tu avais des gants et tu as jeté tes chaussures, mais l'ADN. Comment est-ce que ça se relève déjà, ces traces-là? Est-ce que tu t'es assez protégé? Les policiers continuent. Ils évoquent que plusieurs personnes ont déjà répondu à leur appel à témoins passés à la radio, que les relevés de ton téléphone semblent également assez prometteurs. Mince, ton téléphone. Tu n'y avais plus pensé à celui-là. Est-ce que tu as bien tout effacé? Est-ce qu'on ne t'avait pas une fois raconté qu'il existait des possibilités de retrouver des fichiers anciennement supprimés? À ce stade-là, ta confiance en toi est clairement entamée. Et si, de toute façon, il trouve toute la vérité? La tentation se fait forte de tout avouer, de te montrer coopérative pour faire preuve de repentance et espérer ainsi gagner un petit peu de clémence lors du procès. Je l'ai déjà évoqué, en tant que personne interrogée, tu n'as pas accès au dossier d'enquête et tu ne connais donc pas les éléments qui s'y trouvent. D'autre part, à moins de t'y être sérieusement confronté, tu n'as probablement pas une connaissance très claire des moyens que la police possède ni du cadre légal dans lequel elle évolue. En résumé, tu ne sais ni ce que les policiers policières savent, ni les capacités qu'ils, elles, ont pour faire leur travail. C'est cette ignorance qui est exploitée. Les inspecteurs inspectrices cherchent à te faire croire que tout leur est possible, qu'ils, elles, ont des moyens, des ressources et du temps illimités, qu'ils, elles, possèdent déjà toute une série d'indices matériels ou qu'ils, elles, vont les trouver avec certitude. L'objectif de cette stratégie est de t'amener dans une des deux postures suivantes. La résignation. Tout est perdu. Les flics savent déjà tout. Ça ne fait plus de différence si je leur parle à présent. Alors à quoi bon résister? La justification. L'impression que veulent donner les policiers et policières, c'est que ce que tu vas dire, ou ne pas dire, n'a pas vraiment d'importance, qu'ils, elles, t'interrogent uniquement par routine, mais que leur version est déjà faite. Ce sentiment peut engendrer une forte motivation à te justifier, à rétablir les faits en leur fournissant des explications. Et à travers cela, leur donner plus d'informations que ce dont ils, elles, disposent réellement.
Chapitre 7. Type de question.
Il existe plusieurs manières de formuler une même question. En fonction de la stratégie visée ou de ce que l'inspecteur-inspectrice veut te transmettre comme information, la manière de formuler la question sera adaptée. Cette liste aborde les principaux types de formulation de questions.
Sous-chapitre 1, questions ouvertes, questions directes.
Les questions ouvertes abordent un thème de manière particulièrement large. Elles visent à récolter une information fluide, non cadrée. Elles incitent à l'expression libre, à la discussion plutôt qu'à une réponse précise et limitée. Les inspecteurs et inspectrices les utilisent pour donner l'image qu'ils, elles, s'intéressent réellement au sujet abordé et pour sortir d'un schéma de confrontation. Les questions ouvertes encouragent à une attitude de collaboration active de ta part. Lors d'un interrogatoire, ce type de question est privilégié au début et permet de se faire une image de la personne que l'on a en face et de son schéma de pensée. De plus, les questions ouvertes permettent de dessiner les contours de futures questions qui seront, elles, bien plus précises. Ce type de question est notamment utilisé pour la stratégie de l'entonnoir. Exemple. Que pensez-vous de cette situation? Que pouvez-vous me dire sur ce sujet? Est-ce que vous aimez votre travail, le cinéma, le sport? Comment se déroule habituellement votre journée?
Sous-chapitre 2, questions fermées ou indirectes.
Il s'agit de questions qui visent une information précise et spécifique. Elles orientent l'interrogatoire vers un point précis. Elles entraînent souvent des réponses courtes comme oui ou non. Lorsqu'elles sont glissées brusquement au milieu de questions ouvertes, les questions fermées créent un effet de surprise qui peut te déstabiliser et te pousser dans tes retranchements. Lors de la stratégie bon flic, méchant flic, c'est le genre de question utilisé par le méchant flic. C'est aussi ce type de question qui est utilisé pour te faire répondre oui et activer la stratégie du mécanisme d'acceptation inconsciente. Exemple. Qui vous a donné cet argent? Avez-vous vu X hier? Vous êtes-vous rendu à Paris dans la semaine?
Sous-chapitre 3, les questions spéculatives.
Ces questions sont utilisées pour te donner l'impression
que les policiers policières connaissent déjà en partie la réponse, ou en tout cas te faire spéculer sur leur niveau de connaissance. Ce sont des questions qui t'offrent souvent deux choix de réponse grâce à l'article « ou ». Elles orientent clairement la réponse attendue, ce qui en fait de bons outils pour recadrer la conversation. Exemple. Vous avez vu Monsieur Bertrand avant ou après son départ ? Y a-t-il une raison pour laquelle un voisin a déclaré que votre voiture était parquée près du lieu des faits ?
Sous-chapitre 4. Question test.
Lorsque pour orienter leur future stratégie, les enquêteurs-enquêtrices ont besoin de savoir si tu vas t'engager dans un axe de défense reposant sur le mensonge, ils vont commencer par te poser une question test. C'est une question à laquelle ils connaissent déjà la réponse, mais partent du principe que toi, tu ignores qu'elles en ont connaissance. Il est très difficile de reconnaître lorsque tu te trouves face à une question test. La stratégie du sable mouvant commence fréquemment par une question test. Exemple. Où étiez-vous hier soir ? À quelle date avez-vous emménagé dans votre appartement ? Pourquoi n'êtes-vous pas allé travailler hier ?
Sous-chapitre 5. Questions suggestives.
Les questions suggestives sont clairement orientées. Elles visent à te pousser dans tes retranchements, à te mettre mal à l'aise, comme si les policiers et policières savaient déjà très bien ce qui s'était passé, mais voulaient encore te faire dire avec tes propres mots. L'effet souhaité peut être de te pousser à l'aveu, de renforcer la stratégie de l'engagement, ou encore que tu leur donnes plus d'informations en ressentant le besoin de te justifier et de te défendre contre les insinuations portées contre toi. Pour ce faire, les questions peuvent être ponctuées d'avertissements comme « Réfléchissez bien avant de répondre » ou « Êtes-vous sûr de cela ?» Exemple. Pourquoi nous avoir menti en affirmant que vous êtes sorti de chez vous hier soir ? C'est vous qui avez envoyé cette lettre ? C'est votre complice qui vous a fait ça ?
Sous-chapitre 6, les questions de projection.
Lorsque la police cherche à humaniser le lien entre eux, elle et toi, à te projeter dans des émotions comme la culpabilité et la honte, ou à t'amener à prendre du recul par rapport à la situation présente, des questions de projection peuvent être utilisées. C'est aussi un type de question particulièrement efficace pour amener la personne interrogée sur le terrain neutre du conditionnel. À la question « Si vous étiez dans le besoin, est-ce que vous iriez prendre de l'argent dans la caisse de votre employeur ?» il est moins risqué de répondre « oui » que si la question était formulée ainsi « Est-ce que vous avez volé dans la caisse de votre employeur ?» Exemple. Si vous étiez à notre place, que penseriez-vous ? Pourquoi pensez-vous que le coupable ait agi de la sorte ? Que ressentiriez-vous si des gens pénétraient illégalement chez vous ?
Sous-chapitre 7. Les questions de rebond.
Ce sont des questions courtes, permettant aux inspecteurs-inspectrices de rebondir sur une information qui leur paraît importante, afin de rediriger la discussion dans la direction souhaitée. Elles sont aussi utilisées pour donner une impression de compréhension, d'empathie et d'intérêt des inspecteurs-inspectrices envers toi. Exemple. De quelle couleur était cette voiture lorsque tu viens d'évoquer une voiture ? Quel sport aimez-vous ? Après que vous ayez déclaré ne pas aimer le tennis ? En quoi ? Dites-moi en plus.
Sous-chapitre 8. Les questions miroirs.
Les questions miroirs sont beaucoup utilisées lors des thérapies psychologiques. Elles visent à pousser la personne entendue à approfondir ses propres déclarations. La question est construite sur une reformulation de ta dernière réponse entendue. Elles sont utilisées pour la stratégie de l'engagement, ainsi que pour humaniser la relation enquêteur-enquêtrice-suspecte. Exemple. Vous dites que vous ne vous sentiez pas respecté par votre employeur ? Vous vous sentiez mal à l'aise en présence de votre ami ? Après que la personne interrogée a déclaré se sentir mal à l'aise en présence de son ami. Techniques de manipulation, stratégies d'interrogatoire, types de questions, ce sont autant de pièces d'un puzzle que la police combine de mille manières pour arriver à ses fins, en s'adaptant à la situation et à la personne devant elle.